son premier embarras se dissipait. Ayant découvert l'usage de la petite truelle qui l'avait si fort intriguée, il vit qu'après tout, il se rendrait maître de son outillage et put prêter l'oreille à la conversation. Pauline causait peu, car M. Molaire, aussitôt après le potage, s'était lancé sur le terrain des affaires. Le souper du samedi était fait pour cela. « Oui, le commerce est une grande chose, » dit le patron en appuyant ses deux mains sur la table et en se renversant contre le dossier à clous dorés de sa chaise. « Vous ne vous repentirez pas, monsieur Offrand, d'être entré dans cette voie. Une chose grandiose. Il met en communication tous les peuples de l'univers et répand sur tout notre globe les lumières de la civilisation. Pour nous, notre cercle d'activité s'élargit chaque jour, » poursuivit-il. Bientôt, notre personnel ne suffira plus à la besogne. Tenez, monsieur Offrand, c'est grand dommage que vous ne sachiez pas la comptabilité. Je la saurai, dit Luc, qui tressaillit comme au bruit du clairon. Le patron sourit d'un air bénévole. Étudiez, étudiez, cela ne nuit jamais, dit-il. On trouve de l'avancement chez nous. Le zèle reçoit des galons dans notre ruche ouvrière. Luc trouva cette métaphore irréprochable et son patron le plus éloquent, en même temps que le meilleur des hommes. Il eut peine à contenir son allégresse dans de justes bornes jusqu'à la fin du souper. Déjà son imagination, sur ce vague espoir, battait monnaie, de cette monnaie brillante et légère dont sont remplis les coffres des châteaux en Espagne. Comptable, il serait comptable de l'importante maison Molaire, la seconde maison européenne pour l'exportation des fournitures d'horlogerie. Comptable, puis caissier peut-être, et qui sait, associé. L'audace de son ambition le fit tressaillir lui-même. Effrayé de sa présomption, comme si on eût pu la lire sur son visage, il leva les yeux et rencontra le regard et le sourire de Pauline, un sourire et un regard qui semblaient dire « En avant !» Il resta silencieux jusqu'au moment de prendre congé, craignant de trahir son effervescence intérieure. Mais lorsqu'il se retrouva avec Dalphon Renaud, dans la rue déserte qui conduisait à leur quartier, il lâcha bride à son enthousiasme et se montra, tout en parlant, à un diapason extraordinaire. « Quelle perspective » s'écria-t-il. « À 25 ans, je serai un homme posé si la veine dure. » Et pourquoi ne durerait-elle pas? Le succès n'est pas affaire de chance, mais de... « De mérite, » suggéra Dalphon avec cette tranquille ironie qui rafraîchissait toujours la température morale de son ami. « De mérite, si vous voulez, » répliqua celui-ci vivement. « Je compte bien mériter la fortune. » Mais vous êtes si désenchanteur. Le patron ne s'est-il pas montré encourageant, voyons ? Certainement, répondit Dalphon. Il ne dit pas à Luc Offrand que lui-même l'avait proposé pour cet emploi. Il essayait d'entrer cordialement dans l'enthousiasme de son ami, mais il n'y réussissait guère, soit qu'il fût en effet très désillusionné, soit qu'il craignît pour les juvéniles ambitions de Luc quelques rudes soufflets de l'expérience. Ils regagnèrent leur logis sans beaucoup de paroles. Quand la porte fut close et la lampe allumée, Luc courut à l'étagère où Dalphon serrait ses livres. Il y prit un petit volume usé qu'il ouvrit aussitôt. « Laissez-moi jeter un coup d'œil sur ce manuel de comptabilité, » dit-il en attirant une chaise près de la table. « Si tard, vous oubliez que nous devons nous mettre en route de bonne heure demain. » Sur les instances de Luc, Dalphon Renaud avait enfin accepté son invitation et devait passer avec lui la journée du dimanche à la Rosière. « Dormez, dormez !» dit Luc en fourrant ses mains dans ses cheveux. « Pour moi, je ne saurais fermer l'œil, je suis trop excité. » Il s'enfonça dans les mystères du droit et de la voix, oublieux de tout ce qui l'entourait, tandis que son imagination faisait danser un prisme brillant sur les arides théories du manuel. Des voix bruyantes retentirent sous ses fenêtres. La porte d'entrée s'ouvrit à grand fracas, des pas lourds firent retentir les corridors. Luc n'entendait rien. Penché sur son livre, dont il tournait fiévreusement les pages, il n'entendait ni le tic-tac de la pendule, ni le bruit de la pluie au dehors. « C'est bien, j'y suis. Voyons plus loin, » murmurait-il de temps en temps. Les heures s'écoulèrent, l'aube vint. « Comment, vous y êtes encore ?» s'écria Dalphon en s'éveillant. « Vous ne vous êtes pas couché? Savez-vous qu'il est 4 heures ?» Luc, saisi par le froid du matin, frissonna. « Comme on est raide » fit-il en s'étirant. « Je me sens tout chose. Vrai, je ne me suis pas aperçu que le jour venait. Ce n'est pas malin, votre cours de comptabilité. Je l'ai lu jusqu'à la dernière page, j'ai voulu en avoir le cœur net. La semaine prochaine, je me mets au compte courant, puis j'étudierai les termes spéciaux de la correspondance commerciale. Après cela, une ou deux langues pour le dessert. » Et Luc partit d'un joyeux éclat de rire. Là-dessus, dit-il, je puis encore dormir 2 heures. Il se jeta tout habillé sur son lit et n'eut pas à appeler longtemps le sommeil. La pluie, que c'est vexant ! Fit-il en tournant vers la croisée, des yeux fort appesantis, lorsqu'à 6 heures, Dalphon ouvrit les volets. « Vous vous ennuierez à périr chez nous s'il faut rester tout le jour enfermé dans la chambre sans oser mettre le nez dehors. J'aurais eu tant de plaisir à vous montrer les jolis coins de la Rosière. Mais claire et gentille, vous verrez, si du moins nous la trouvons de bonne humeur. » Il n'était point sans quelque appréhension à cet égard. En lui disant adieu le dimanche précédent, Claire lui avait recommandé avec tant d'instance de ne jamais manquer à revenir le samedi soir. « Bah, une fois n'est pas coutume, » se dit Luc en plongeant sa tête brûlante dans la cuvette d'eau glacée. « Je lui raconterai tant de choses qu'elle ne saurait me garder rancune. D'ailleurs, c'est pour elle que je cherche à être bien avec le patron. C'est pour elle que je me donne la fièvre et que je passe les nuits à travailler. » Déjà, cette nuit d'insomnie volontaire s'était multipliée dans l'esprit de Luc et il considéra bientôt comme très réel et très méritoire le sacrifice qu'il faisait ainsi de son repos à sa cousine. Quand les deux amis sortirent de la maison, la pluie avait cessé. Une fraîcheur piquante et une agréable odeur de poussière mouillée remplissaient l'air. Luc sentit son mal de tête se dissiper peu à peu sous la froide caresse du matin. Le sentier sous bois était détrempé, mais les oiseaux chantaient et le ciel gris s'éclairait de temps en temps comme d'une promesse de soleil. Luc fit gaiement à Dalphon Renaud les honneurs de la forêt. Il avait souvent parcouru le front penché, là de sa vie oisive et sans but. Aujourd'hui, son cœur débordait d'espoir et d'entrain. « Vive la vie » s'écria-t-il en jetant son chapeau au milieu des branches qui lui répondirent en l'arrosant d'une petite averse. « Ah, qu'il est bon d'avoir 20 ans !» Par parenthèse, je ne les ai pas encore, mais c'est égal, je me sens majeur et plus que majeur. Et vous, monsieur Renaud, quel âge avez-vous donc ? 28 ans, indiscret jeune homme. Je vous aurais donné davantage, fit Luc naïvement. Pour la raison, vous avez tant d'avance sur moi. C'est qu'aux âmes bien nées, la raison n'attend pas le nombre des années, fit Dalphon en souriant. Ah, certainement, c'est comme Claire qui est dame sagesse en personne. Et avec cela, elle me croit bien supérieure à elle. Mais je me connais, s'écria Luc dans un accès d'humilité soudaine. Je ne la vaux pas. Je suis égoïste, moi, l'ambition m'enfiévre. J'en oublie ceux que je devrais le plus chérir. Il baissa la tête et resta longtemps songeur. Son compagnon se dit que l'air des bois valait mieux à Luc que celui de l'entrepôt. Lyon n'était pas avec eux. Quoiqu'à regret, Luc avait jugé plus prudent de le laisser en ville jusqu'à ce que la vivacité de sa rancune se fût apaisée. Les aboiements du chien auraient annoncé de loin les voyageurs à Madeleine, mais comme ils entraient seuls dans la petite cour moussue, aucun bruit ne trahit leur arrivée. Luc ouvrit grande la porte de la cuisine et aperçut Claire et Madeleine assises en face l'une de l'autre près du foyer. « Bonjour, maman. Bonjour, petite cousine, » dit Luc joyeusement. « Voici mon ami Dalphon Renaud qui vient faire votre connaissance. » Elles se levèrent toutes deux. « Tu t'es bien fait attendre, mon fils, » dit Madeleine. « Nous étions inquiètes et depuis hier soir, nous nous sommes forgés toutes sortes d'idées. Ton père, qui n'était pas tranquille non plus, allait se mettre en route pour savoir de tes nouvelles. Il ne t'est rien arrivé de fâcheux, dis. » Mais j'oubliais, continua-t-elle en se tournant vers Dalphon, avec cette dignité simple qui lui donnait tant de distinction. J'oubliais que mon fils a trouvé un ami. Sachant Luc avec vous, je ne devrais pas me tourmenter. » Elle lui tendit la main, mais Claire restait à l'écart. « Viens donc, petite, dit Madeleine, fais accueil à notre enfant retrouvé. » Claire avança d'un pas, salua Dalphon avec indifférence et, tout à coup, se dressant devant son cousin, « Qu'est-ce qui t'a retenu ? » dit-elle d'une voix contenue et tremblante. « Tu m'avais promis de venir plus tôt. Qu'est-ce qui t'a empêché de tenir ta parole ? Tu t'es amusé avec des camarades sans songer à notre inquiétude ? Ou bien as-tu eu un accident ? J'aimerais mieux cela. » Elle parlait avec une véhémence qui étonna Luc autant que son ami. Pardonne-lui, dit doucement Madeleine à son fils, mais c'est qu'elle a pris ton retard très à cœur. Me pardonner? À moi? Vraiment? Fit Claire. C'est à lui à demander pardon, à s'expliquer tout au moins. Parle, parle donc! Cette scène est inqualifiable, répondit Luc très offensé. Je m'expliquerai, Claire, quand tu auras retrouvé ton calme. Pour le moment, il est inutile d'en dire davantage. » Et il ouvrit la porte de la chambre commune, invitant Dalphon à entrer. Comme il allait le suivre, une petite main brune se posa sur son bras. « J'ai tort, Luc. Reste ici et parle-moi. » Claire levait sur lui des yeux pleins de larmes. Il la prit par la main et la conduisit doucement à sa chaise basse près du foyer, tandis que Madeleine les laissait en tête à tête pour excuser auprès de Dalphon Renaud cette orageuse réception. « Comment, dit Luc, peux-tu te bouleverser ainsi à propos d'une bagatelle ?» Mais Claire n'entendait point que les rôles fussent intervertis. Elle était de droit la plaignante. « Nous avons passé une mauvaise nuit, ta mère et moi, dit-elle froidement. Nous pensions qu'une raison grave pouvait seule te retenir quand nous t'attendions. Une raison grave n'est pas nécessairement un accident. Si quelque malheur m'était arrivé, Dalphon Renaud vous aurait prévenu. Que pensera-t-il de toi ? Poursuivit Luc d'un ton vexé. Et voici qu'il rencontre une petite furie. À ce mot dur, Claire pencha la tête. J'ai eu tort, dit-elle, mais toi, parle donc. « Eh bien, ma chère, voici la chose en deux mots. Monsieur Moller m'a invité à souper. Puisqu'il lui plaisait de choisir le samedi, ce n'était pas à moi, je pense, à lui imposer un autre jour. »« Tu pouvais refuser, » dit Claire nettement. Luc le savait bien. Il regimba d'autant plus vivement. « Refuser ? Et pourquoi ? Parce qu'il te plaît de faire l'enfant gâté ? « Crois-tu donc que je sacrifierai le soin de mon avenir à ces enfantillages ridicules ?»« Car c'est une question d'avenir, » poursuivit-il en s'échauffant. « Le patron est bien disposé à mon égard, il me favorisera si je réponds à ses avances. S'il m'invite, faut-il donc que je me sauve à toutes jambes, comme le chien de Jean de Nivelle ?» Claire releva la tête. « Mademoiselle Pauline était à ce souper ?» Luc haussa les épaules. « Encore cette vieille histoire, » fit-il. « Il est assez naturel que Mademoiselle Moller soupe chez elle, n'est-ce pas ?» Claire se leva, ses lèvres tremblèrent, mais elle laissa tomber sur Luc un regard calme et froid. « Tu es libre, » dit-elle. Puis elle passa devant lui et alla s'enfermer dans sa petite chambre. « Claire est par trop capricieuse, » dit Luc en rentrant dans la chambre où Dalphon l'attendait avec Madeleine. « Mère, je suis désolée de t'avoir causé de l'inquiétude. Le patron m'a fait souper chez lui. Une autre fois, ne vous mettez pas martel en tête à mon sujet. Si Claire boude, ça nous fera passer un agréable dimanche. » Il se jeta sur une chaise d'un air maussade et se mit à effeuiller les boutons du beau violier qui fleurissait toute l'embrasure. L'entrée de Louis Offrant fit une diversion très bienvenue à l'embarras général. « Ah ça, » dit-il d'un ton jovial, « on ne les fait donc pas déjeuner, ces jeunes marcheurs qui ont deux lieux de pays dans l'estomac ? Monsieur Renaud, vous allez croire que chez nous, on vit d'amour et d'eau fraîche. Ça n'a jamais été mon régime, quant à l'eau fraîche surtout. Allons, Madeleine, fais-leur sauter une omelette. Et Claire, où est-elle donc ? Si elle ne tient pas la queue de la poêle, Luc trouvera que le déjeuner ne vaut rien. » Parbleu, monsieur Renaud, si vous voulez voir un gentil couple de cousins et toujours de bon accord, vous trouverez cet article chez nous. Pas vrai, toi, Luc ? Songeant à la jolie scène de concorde dont Dalphon avait été régalé pour sa bienvenue, Luc ne put s'empêcher de rougir. « Allons déjeuner, » dit-il en se levant brusquement. « Êtes-vous raccommodé ?» demanda Dalphon à voix basse en glissant son bras sous celui de Luc. « Pas moyen, elle se monte comme une soupe au lait. Elle est jalouse, voilà l'affaire. »« Jalouse, et de qui donc ?»« De mademoiselle Moller, parbleu. » Dalphon devint plus grave et Luc se sentit tout à coup mal à l'aise. « C'est absolument ridicule, » fit-il avec un certain embarras. « Toutes mes pensées sont pour Claire, presque toutes. Il faut bien que je songe aussi à mon avenir. C'est pour elle, d'ailleurs, autant que pour moi. « Écoutez, » poursuivit-il en serrant le bras de son ami, « il faut que vous lui expliquiez les choses. Moi, je m'emporte en la voyant si déraisonnable. Je lui dis des choses amères. Elle pleure et s'en va. Vous, elle vous écoutera. » Luc ne savait pas quel effort il imposait à son ami. La timidité nerveuse de Dalphon et la conscience exagérée de sa laideur et de sa gaucherie lui faisaient désirer par-dessus tout de passer inaperçu. Sans l'avouer, car il luttait contre cette faiblesse, il avait une crainte maladive du ridicule qui s'attachait, croyait-il, à sa figure. Il cherchait l'ombre, l'arrière-plan. Un sourire moqueur dont il croyait être l'objet le laissait parfois triste des heures entières. Il connaissait peu de femmes, encore moins de jeunes filles, sachant bien que sa laideur n'était pas de celles qui trouvent grâce à leurs yeux et qu'elles qualifient de laideurs intéressantes. L'accueil indifférent de Claire l'avait soulagé d'une appréhension. Il s'était figuré qu'à son aspect, la jeune fille ouvrirait de grands yeux étonnés et railleurs. Mais elle n'avait point pris garde à lui. Dalphon ne souhaitait rien de plus. « Rendez-moi ce service, » dit Luc en insistant. « C'est un devoir d'amitié. Claire vous écoutera, je vous assure, et vous remettrez toutes choses en bon état. »« Très bien, » répondit Dalphon. « Je m'offre en holocauste, puisque vous invoquez le devoir et l'amitié. Mais où est votre cousine ?»« Elle s'est enfermée dans sa citadelle. Je vais essayer de parlementer. » Luc heurta doucement à la porte de Claire. « Cousinette, » fit-il de son ton le plus persuasif, « ouvre-moi, je t'en prie. Si tu savais combien tu me fais de chagrin... »« Tu ne m'en fais donc pas, à moi ?» répondit la voix de Claire, à demi étouffée par les larmes. « Ne reste pas là toute seule, nous ne saurions déjeuner sans toi. Allons, viens, sois gentille. » Pas de réponse. « Ou bien, » poursuivit Luc, « ouvre la fenêtre si tu préfères cela. » « J'irai m'asseoir sur le banc du jardin et nous causerons pour nous ramitier. Tu ne dis pas non, cousine ?» Il entendit le pas de Claire, puis le petit bruit familier de l'espagnolette qui tournait dans le gond. Il revint à son ami d'un air joyeux. « Vite, vite !» dit-il, « elle capitule !» Il entraîna Dalphon hors de la cuisine jusqu'à l'entrée du petit jardin qui s'étendait sous les fenêtres. « Claire !» s'écria-t-il en voyant la tête blonde de sa cousine paraître à la croisée. « J'amène un avocat !» Un peu surprise, la jeune fille se pencha en avant entre ses pots de réséda et ses géraniums. « Luc, » fit-elle d'un ton de reproche, « ce n'est pas bien cela. Je ne comprends pas qu'on mêle des étrangers à ces choses. » Elle rougissait en parlant et allait fermer sa fenêtre. « Monsieur Renaud est mon meilleur ami, » répondit Luc. « Écoute-le, Claire. Il sait tout ce qui me concerne et comprend ma situation beaucoup mieux que moi-même, car je ne suis à tout prendre qu'un jeune oiseau très neuf et perpétuellement étonné de tout ce qui m'arrive. Il te dira au juste quelle sorte d'individu je suis et tu me le répéteras ensuite pour mon instruction. Là-dessus, je vous laisse, vous causerez plus agréablement sans moi. » Il tourna sur ses talons et rentra dans le corridor. Dalphon regarda Claire qui le regardait et tous deux restèrent un moment à mesurer la situation en silence. Dalphon Renaud était trop myope pour distinguer nettement le visage de la jeune fille, mais il croyait y entrevoir cette expression d'ironique pitié qu'il redoutait par-dessus tout. « Eh bien, » dit enfin Claire, « pour un avocat, il faut avouer que vous n'êtes pas bavard, monsieur. » Elle s'était assise sur le coussin rouge qui garnissait le rebord intérieur de la fenêtre, sa joue brûlante encore de larmes, s'appuyait contre le cadre de pierre où grimpait le vert feuillage d'une capucine. Au fond, elle désirait entendre l'ami de Luc. Il saurait lui prouver que ses craintes jalouses n'avaient aucun fondement. Son cœur, soupirant après cette assurance, donnait déjà raison au plaideur. « Avec quelle sérénité Luc nous laisse !» songeait Dalphon, non sans quelque amertume. Parbleu, la comparaison lui sera avantageuse. Quand on charge un ami de ses missions délicates, c'est qu'on le sait loyal et fort peu redoutable. Allons, il faut m'y résigner. Dans la comédie de ce monde, je ne jouerai jamais que les intendants fidèles et les utilités accessoires. Ses doigts tortillaient nerveusement le bord de son chapeau, tandis que ses yeux cherchaient une inspiration dans le paysage vague qu'ils entrevoyaient au-delà du petit jardin. Enfin, pourtant, il fit un brave effort. « Vous voyez, mademoiselle, fit-il en s'éclaircissant la voix, que Luc a mal choisi son avocat. Je suis fort timide. » Cet aveu candide et superflu fit sourire la jeune fille, mais Dalphon poursuivit, avec une aisance qui l'étonna lui-même. « Cependant, pour défendre mon ami, je ferai tout, même un discours à la rigueur. Vous n'êtes pas très juste envers votre cousin, mademoiselle. »« Comment cela ?» dit Claire, qui eût été heureuse de se reconnaître des torts pour en décharger Luc. « Vous ne comprenez pas sa nouvelle position. Ne soyez pas trop sévère. À ceux qui montent, la tête tourne parfois. Luc est en train de monter. Il a de grands projets qui lui donnent des distractions. » Le vin nouveau le grise un peu, pardonnez-lui. Songez que tandis que vous êtes ici, tranquille et bien gardé, il travaille, il lutte tout seul pour faire son chemin. Il rencontre des difficultés, des tentations que vous ne connaissez pas. Même s'il se laissait éblouir, ne le condamnez pas trop vite, soyez indulgente, le vertige passera. Vous et sa mère, vous lui avez permis de partir. Il est tombé dans un milieu nouveau, avec les ambitions d'un jeune homme et les curiosités d'un enfant. Vous êtes sa sauvegarde. Mais si vous vous irritez contre lui, s'il vous trouve froid et sévère, si, à la moindre infraction, vous lui mettez pour ainsi dire le marché à la main, comme vous l'avez fait aujourd'hui à son arrivée, Luc se rebellera, soyez-en sûr. Il cassera la corde si elle se tend trop et s'en ira à la dérive. « Quant à lui mettre le marché à la main, dit Claire tristement, « je n'en ai pas le droit. Je ne suis pas la fiancée de Luc, mais seulement sa cousine. Nous n'avons aucun engagement. » Dalphon parut surpris. « C'est moi qui l'ai voulu, reprit Claire. Ainsi, j'aurai mauvaise grâce à m'en plaindre. Merci, monsieur, vous avez parlé en ami. Soyez le mien, comme vous êtes celui de Luc, et dites-moi toujours la vérité, » ajouta-t-elle en tendant la main à Dalphon. Celui-ci la prit avec quelque embarras, car sa gaucherie revenait. Au même instant, Luc tournait l'angle de la maison. « On signe le traité de paix, » s'écria-t-il en remarquant le geste de Claire. « Mais j'y veux y être, moi !» Il franchit d'un saut la barrière du jardinet et vint s'accouder dans l'embrasure de la fenêtre en face de sa cousine. « Tu m'as pardonné, » fit-il d'un ton pénitent. « N'en parlons plus, » répondit-elle, « nous avons eu tort tous les deux. » Pour célébrer leur réconciliation, le soleil éclaira tout à coup d'un rayon brillant la fenêtre aux capucines et la pluie s'éloigna en même temps que séchaient les larmes de Claire. Ils déjeunèrent délicieusement à trois dans le verger sous un gros prunier aux branches tordues. Les merles d'alentour s'égosillaient joyeusement. L'herbe déjà haute et touffue ondulait sous la brise. Parfois, une feuille se détachait de l'arbre et tombait doucement sur la nappe ou dans la jatte de crème. Claire et Luc babillaient comme des oiseaux. Dalphon les écoutait en rêvant et se demandait avec un peu de mélancolie si la vie ne lui accorderait jamais que les miettes du bonheur des autres. « Écoutez, monsieur Dalphon, fit Luc étourdiment, vous devriez vous fiancer, ce serait charmant. Nous viendrions déjeuner à la Rosière en partie carrée. » Dalphon sourit. « Je suis né vieux garçon, dit-il en se tournant involontairement du côté de Claire pour voir si l'image de Dalphon Renaud fiancé lui semblait par trop divertissante. « Je crois que j'ai en moi l'étoffe d'un oncle modèle. Par malheur, mon seul frère habite l'Australie et je ne verrai sans doute jamais ses enfants. La solitude est mon lot, ajouta-t-il à demi-voix. Pourquoi donc ? S'écria Luc avec feu. Claire, tu es le meilleur juge. Est-ce que la femme de M. Dalphon ne sera pas heureuse ? Claire rougit. La question était singulière. Mais elle vit le regard de Dalphon Renaud fixé sur elle, avec une expression de tristesse et d'attente anxieuse qui l'émut. Elle devina qu'il attendait sa réponse comme une sentence. « Très heureuse, plus que la tienne peut-être, Luc, » dit-elle. « Assurément, » s'écria son cousin, « moi, j'ai mille défauts. Mon ami n'en a qu'un, sa modestie exagérée. Là-dessus, il est incorrigible. « Vous êtes trop bons l'un et l'autre, » fit Dalphon en secouant la tête. « Le monde est moins indulgent que vous pour ceux qui lui choquent la vue. » C'était la première fois qu'il faisait une allusion directe à sa laideur. Luc en fut peiné, mais se tut. Toute protestation eût été maladroite. La journée s'écoula fort paisiblement. Le ciel était redevenu serein, mais les sentiers étaient encore trop humides pour que la jolie robe de Claire pût s'y aventurer. On resta dans le jardinet, sur le banc rustique, à causer durant tout l'après-midi. Luc avait mille récits à faire, sa verve ne tarissait pas. Sa nature toute d'impression, son heureuse élasticité d'esprit, lui rendaient l'oubli facile. Pour le moment, l'élégante Pauline était à 100 lieues de ses pensées. Il ne voyait que sa cousine Claire et se croyait de bonne foi le plus constant des amoureux. Le soir, quand l'heure arriva de prendre congé, Louis Offrand et Madeleine serrèrent la main de Dalphon avec une cordialité et des expressions de reconnaissance dont il se sentit confus. « Ne lâchez pas notre garçon, » dit le père. « Jusqu'ici, tout va bien, mais je le connais. Il tient de moi et, dans notre famille, on a toujours été sujet aux coups de tête. »« Luc fera son devoir, j'en suis bien sûr. » interrompit Madeleine avec un léger accent de reproche. « Ne dénigre pas ton fils, Louis, mais il est encore bien jeune et bien novice, monsieur Renaud. Gardez-le, je vous en prie. »« Je ferai de mon mieux, » répondit Dalphon, « mais s'il pense à vous, il n'aura pas besoin d'autre sauvegarde. » « Mon métier d'oncle tuteur et berger commence d'une manière bien inattendue, » pensa-t-il. « Mon grand-neveu sera-t-il docile à la tutelle ?» La vie est pleine de surprises. Il y a 2 mois, sentant que je m'enfonçais jusque par-dessus les oreilles dans ma vie égoïste et commode de célibataire, je cherchais une tâche à remplir. Elle s'est présentée d'elle-même, bien différente de ce que je souhaitais. Bah, allons-y de gai courage. Le bonheur qui n'est pas fait pour moi, je tâcherai du moins que Luc l'obtienne, car cet étourdi est capable, si l'on y veille, de le laisser glisser entre ses doigts.